Bonjour à toutes et tous, notamment les personnes que j'ai pas pu saluer particulièrement ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Psaumes. Et je souhaiterais ce matin lire avec vous quelques versets du psaume 139. Je l'avais déjà cité dans ma prédication il y a 2 semaines et j'aimerais y revenir. Ce ne sera pas le texte principal de ma prédication, mais il fera partie des textes qui appuieront mon argumentation ce matin. Psaume 139. Et j'aimerais lire avec vous les versets 13 à 18. Dans les 12 premiers versets, David a confessé que Dieu savait tout de lui, qu'il connaissait tout de lui, que Dieu était omniscient et omniprésent. Et David va continuer avec ces quelques mots. Verset 13. « Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. » Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Amen. Bertrand de Rocambeau, c'est le prononciation, c'est le président du syndicat national des gynécologues et des obstétriciens de France. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je vous parle de ce monsieur. Eh bien, sachez qu'il a été interviewé il y a quelques semaines par une jeune femme, une journaliste. Et pendant l'interview, cette jeune femme lui a dit « Docteur, l'avortement, ça n'est pas un meurtre. Le fœtus, il n'a pas de personnalité juridique. » Et le médecin lui a dit « Si, madame, nous ne sommes pas là pour prendre des vies. Moi, je fais un métier avec mes tripes. Et aux choses auxquelles je ne crois pas, je ne les fais plus. » Alors cette journaliste avait raison légalement. Légalement, en France, effectivement, un fœtus n'a pas de personnalité juridique. Mais qu'est-ce qu'il en est du point de vue de Dieu? En tant que chrétien, on ne peut pas se contenter de l'argument légal. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer qu'on réfléchisse ensemble sur la vision que Dieu a de l'avortement. Et notamment, j'aimerais que nous puissions réfléchir à la question suivante. L'IVG, l'intervention volontaire de la grossesse, est-elle un meurtre aux yeux de Dieu? Nous considérerons donc ce matin 3 vérités bibliques concernant la vie humaine pour nous aider à prendre position quant à l'avortement. Nous verrons que la vie a de la valeur aux yeux de Dieu, ça a déjà été dit ce matin. Nous verrons aussi que la vie a un début qui est fixé par Dieu. Et nous verrons pour terminer que la vie appartient tout entière à Dieu. La vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a 2 semaines, la lecture de Genèse 1 et Genèse 9, qui parlent notamment de la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme et à la femme, eh bien ces textes nous rappelaient combien les enfants sont, pour le couple, une bénédiction de la part de Dieu. Aujourd'hui, ces mêmes textes nous rappellent une autre vérité biblique. La vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu choisit délibérément de créer l'être humain, le créant homme et femme pour qu'ils soient chacun image de Dieu. Dieu, lorsqu'il considère toute la création, dont l'être humain est la dernière étape, peut regarder toute son œuvre et dire « Tout cela est très bon. » À l'apogée, je dirais, de la création, il y a l'être humain. C'est lui qui couronne toute la création de Dieu. Genèse 2, au verset 7, nous rappelle que c'est Dieu qui donne l'être et la vie à Adam. Il lui souffle la vie. Il le forme de la terre et il souffle la vie en lui et Adam prend vie. La vie de ces créatures a de l'importance pour Dieu. Il sait tout de ces créatures. Il sait, comme le dit David au début du psaume 139, il sait quand elles s'asseyent et quand elles se lèvent. Dieu sonde chacune de ses créatures et il discerne tout ce qu'elles pensent. Il connaît les paroles et les pensées de ces créatures avant même qu'elles viennent dans notre esprit et qu'elles sortent de notre bouche. Après le déluge, en Genèse 9, Dieu établit une alliance avec l'humanité au travers de Noé et de sa famille, mais aussi avec le reste de ses créatures. Et voici quel est le contenu de cette alliance. Genèse chapitre 9, les versets 1 à 6. Voici ce qui nous est rapporté. Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer seront livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture comme les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang à vous, j'en demanderai compte pour votre vie. Quiconque le répandra, que ce soit un animal ou un être humain, je lui en demanderai compte. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Dieu a fait l'homme pour être son image. C'est pourquoi si quelqu'un répand le sang d'un homme, d'un être humain, son sang à lui doit être répandu par l'homme. Étrange traité d'alliance que celui de Dieu. Mais Dieu montre ici toute la valeur qu'il donne à la vie de ses créatures, les animaux, mais aussi et surtout les êtres humains. Ainsi, quiconque touche à la vie d'un être humain pour la lui retirer, devra rendre compte à Dieu, que ce soit un animal ou un homme qui ait retiré la vie. Si le meurtre, la mort d'une personne est si fortement condamné, c'est parce que la vie humaine a une valeur inestimable aux yeux de Dieu, parce que l'être humain est image de Dieu. C'est ce que rappelle le verset 6. Dieu a fait l'homme pour être son image. Donc, tuer un être humain, c'est tuer une personne qui est image de Dieu. Quiconque ferait cela est appelé à en répondre devant Dieu. Car comme il le dit lui-même, je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Nous pouvons constater ici, par ces quelques exemples, combien la vie humaine a de la valeur, du prix, aux yeux de Dieu. Nous avons constaté que nul ne peut toucher à une vie humaine sans qu'il y ait de conséquences devant Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la vie et que chacune de ses créatures est à son image. Dans la perspective de notre questionnement de ce matin sur l'IVG, sur l'avortement, s'il est établi que la vie humaine a une extrême valeur aux yeux de Dieu, il nous faut cependant déterminer maintenant quand est-ce que cette vie commence. Y a-t-il un moment où il serait acceptable de se débarrasser de cet être humain en formation? Quand commence la vie pour Dieu? La vie a un début qui est fixé par Dieu. Et le roi David nous donne un bel aperçu du moment où Dieu fait commencer la vie de l'être humain. Nous avons vu que Dieu donne la vie à Abraham. Et David confesse la même réalité dans le psaume 139, dans ce que nous avons lu ensemble. David dit « Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Pour David, Dieu a fait de lui un être vivant dès le ventre de sa mère, alors qu'il n'était encore qu'une masse informe. Quand David n'était pas encore formé, quand David ne ressemblait pas encore à un être humain comme nous le sommes, nous, aujourd'hui, eh bien, Dieu le considérait déjà comme un être vivant. Il avait déjà posé son regard sur lui, et Dieu avait déjà inscrit pour lui tous les jours qui le concernaient dans son registre. Pour David, il n'y a pas de doute. Le fœtus, c'est un être vivant dès la fécondation qui a suivi l'acte sexuel. La masse informe n'est pas, comme nous l'entendons parfois aujourd'hui, un tas de cellules mortes, sans vie, sans valeur. Je ne souhaite pas me lancer ce matin dans un combat contre la science. Je souhaite rapporter simplement ce que dit la Bible. Et je souhaite qu'également vous puissiez avoir du respect et de l'amour pour ces personnes qui donnent leur vie à la science, qui réfléchissent, qui travaillent la science, même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec eux. Nous ne voulons critiquer personne, ni lancer une quelconque pierre à qui que ce soit. Mais en tant que chrétiens, nous voulons savoir ce que Dieu nous dit sur chaque sujet. Dieu tisse et façonne le fœtus dans les profondeurs du corps de la mère. Il prend cette masse informe et il lui donne la forme qu'il désire. David disait au psaume 51, verset 7, que le péché était attaché à lui dès sa conception, dès le ventre de sa mère. Comment ce serait possible que David dise une chose pareille ? Comment est-ce que ce serait possible que le péché s'attache à une masse de cellules sans vie, alors qu'il est l'héritage morbide de tout être humain ? Jean-Baptiste a tressailli dans le ventre de sa mère parce qu'il était en présence de Jésus, de son Messie, alors que Jésus n'était encore qu'en formation dans le ventre de sa mère. Comment est-ce que ce serait possible que Jean-Baptiste tressaille parce qu'il est en présence d'un tas de cellules mortes ? Il n'y a pas de sens logique à cela. Est-ce que vous savez qu'en France, légalement, on a le droit d'avorter jusqu'à 12 semaines de grossesse ? Jusqu'au troisième mois, en France, légalement, il est possible à une femme d'avorter. Et il est d'ailleurs aussi possible d'avorter encore plus tard, s'il y a un risque pour la mère ou s'il y a un risque pour l'enfant ou s'il est touché par un handicap ou une maladie incurable. Quand on attendait la naissance de Zoé avec Chantal, le gynécologue nous a dit qu'après l'échographie des trois mois, on pouvait décider si on voulait ou non garder Zoé. Parce que l'échographie des trois mois permettait notamment de déterminer s'il y avait un risque qu'elle soit trisomique ou non. En France, après trois mois, on peut décider qu'on assassine un enfant parce qu'il est handicapé, parce qu'on n'en voudrait pas, ou que peut-être on n'en voudrait plus, parce qu'on aurait changé d'avis. Avec Chantal, on n'a jamais envisagé cette possibilité. Pas une seule seconde. Parce que même si elle n'était pas encore là et qu'elle était petite, c'était déjà notre enfant. Même quand son corps était que en cours de formation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais vu une échographie ici ? Ben tiens, j'ai ramené l'échographie de ma fille. On voit très bien la ressemblance, elle est belle comme son père.
Vous ne trouvez pas beau peut-être ? Il n'y a pas de honte à jamais avoir vu une échographie. Ne vous moquez pas de ceux qui n'ont pas encore eu d'enfant.
J'ai passé à Richie l'échographie qui a été faite aux 3 mois de Zoé. Alors je dis aux 3 mois de Zoé parce qu'elle était déjà vivante et je considère qu'elle avait déjà 3 mois de vie. Eh bien, si vous regardez l'échographie d'un bébé qui est dans le ventre de sa mère depuis 3 mois, vous verrez sa tête, vous verrez ses membres, ses pieds, vous verrez déjà des images de son cerveau. Qui oserait dire que ça n'est pas une personne ? Ma maman a eu ma grande sœur à 38 ans, c'était assez tard déjà, pardon, à 35 ans, c'était pas très très jeune. Et le jour de la naissance de ma sœur, ma mère et ma grande sœur ont failli mourir. Après ma naissance, la maladie génétique de ma mère qui a causé son décès s'est déclarée. Et plus tard, à 41 ans, ma mère et mon père ne pensaient plus avoir d'enfants. Et un jour, alors que ma mère devait subir une opération, j'ai oublié laquelle, mais c'était pour plus avoir d'enfants, à cause de problèmes de santé, ma mère et mon père ont eu un doute avant l'opération. Ils sont allés voir le médecin et ma mère a dit « J'aimerais une échographie parce que j'ai un doute. » Le médecin lui a dit « Comment ça, vous avez un doute ?» Et mes parents ont dit « Intérieurement, on ressent quelque chose et on aimerait être certain. » Et ils ont fait une échographie et oh, il y avait un troisième enfant, ma petite sœur. C'était tard, hein, 41 ans pour un enfant. C'est fatigant pour les parents et c'est une grossesse qui peut être difficile. Un jour, j'ai dit à ma mère, maman, qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais su que ta maladie se déclencherait après ma naissance ? Elle était en train de faire de la couture, je pense. Elle en faisait beaucoup et elle a posé ses affaires. Elle a enlevé ses lunettes, elle m'a regardé, elle m'a dit « Ben, j'aurais tout fait pareil. J'aurais rien changé. Parce que j'aurais préféré donner ma vie à moi que de prendre la tienne. » Je ne suis pas en train de dire que mes parents ils sont parfaits, qu'ils ont été meilleurs que tout le monde, etc. Mes parents avaient leur lot d'imperfections, et je pourrais aussi vous les partager, mais ce n'est pas le but. Mais parfois, on se dit l'avortement, c'est OK, c'est acceptable, parce que oui, ben, l'enfant peut être handicapé, peut-être la mère est âgée, etc. Ma mère, elle a risqué sa vie sur ces trois grossesses. Encore une fois, elle n'était pas parfaite, et mon père non plus. Mais on se soulage parfois la conscience en se disant « c'est pas vraiment encore un enfant, c'est pas encore vraiment une personne vivante, c'est mieux pour lui. » À la lumière des quelques exemples qu'on a eus ce matin, il me semble évident que pour Dieu, la vie elle commence dès la conception et qu'il n'existe pas de zone morte qui excuserait quelque chose. Qu'on soit une masse informe ou qu'on soit un adulte dont le corps est formé depuis des années, eh bien, nous sommes devant Dieu tous les deux des êtres vivants égaux. Et notre vie a la même valeur pour Dieu. Ainsi, si c'est Dieu qui donne de la valeur à la vie, et si c'est lui qui en fixe le commencement, alors il me semble naturel de dire que la vie de tout être humain appartient à Dieu. Et nous avons déjà effleuré cette vérité du bout des doigts avec le texte de Genèse 9. Qui nous disait que Dieu demanderait compte à quiconque prendrait la vie d'un autre homme. Le seul à ne pas avoir de compte à rendre à Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que personne n'est au-dessus de lui. Nous, si nous prenons la vie de quelqu'un, nous aurons toujours à en rendre compte à Dieu, à un moment ou à un autre. Dieu est celui qui a créé Adam et qui a également créé les lois naturelles qui permettent à l'être humain d'être fécond et de se multiplier. C'est lui qui tisse dans le ventre de la mère chaque enfant, qui façonne cette masse informe pour en faire un être humain qui soit son image. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 39, Dieu dit, en parlant de la punition des ennemis d'Israël, que c'est moi qui fais mourir et moi seul qui fais vivre. Dieu est le seul qui ait le droit de donner une vie ou de la reprendre. Dieu est le seul à avoir droit de vie et de mort sur l'être humain parce qu'il en est le créateur. Et cela se voit dans la loi qu'il a donnée aux Israélites. Il y avait des cas où la mort d'un être humain était justifiée. Mais Dieu a toujours encadré cela. Et même la mort accidentelle était jugée différemment de la mort volontaire et préméditée. Ainsi, Dieu dira en Exode 20, verset 13, lorsqu'il donne sa loi aux Israélites, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Beaucoup de traductions rendent ce commandement par « tu ne tueras point », mais la meilleure traduction, c'est « tu ne commettras pas de meurtre ». Dieu refuse qu'il y ait dans le peuple des Israélites des personnes qui puissent mûrir dans leur cœur de la haine à l'égard de leur prochain, au point de préméditer et de mener à bien, entre guillemets, un assassinat, un meurtre. Dieu ne supporte et n'accepte pas cela. Dieu dit quand est-ce que le fait d'enlever la vie est une punition à hauteur de la faute, et pour tout le reste, eh bien, nous n'avons pas à nous faire juge à la place de Dieu. Un meurtrier choisit consciemment sa victime. Il décide volontairement de lui ôter la vie. Un meurtrier laisse grandir dans son cœur le sentiment qui le pousse à aller au bout de son projet. Et pour Dieu, c'est une chose inacceptable. Est-ce que l'avortement ne répond pas à ces mêmes caractéristiques ? Est-ce que ce n'est pas un acte que nous préméditons, que nous réfléchissons, que nous décidons, que d'une certaine manière nous voulons ? Parfois, certaines personnes sont victimes aussi. Et qu'après avoir voulu, nous menons à bien. Est-ce qu'on ne s'en prend pas à la vie d'un individu sans défense pour lui ôter cette vie et se débarrasser de lui ? Les parents de l'enfant ne devraient-ils pas tout faire pour protéger la vie de leur bébé qui se forme dans le ventre de la mère plutôt que de la lui retirer ? Le ventre de la mère, ça devrait être l'endroit le plus sûr au monde pour un enfant. Il devient pourtant parfois une scène de crime. Et parfois plusieurs fois. Est-ce qu'on ne décide pas à la place de Dieu de qui vit et qui meurt lorsqu'on fait appel à l'IVG ? Est-ce qu'on ne décide pas alors, nous-mêmes, que telle vie a de la valeur et telle autre non ? Sur l'autel de quoi est-ce que nous sacrifions des vies ? Sur l'autel du bien-être ? Peut-être sur celui de la liberté ? Sur celui de l'autonomie de choix ? Nous serons toujours tenus responsables devant Dieu pour ces vies arrachées, pour ces enfants qui auront été assassinés. Rien ne pourra pardonner devant Dieu notre acte si nous ne nous repentons pas. Vous savez combien, alors je sais qu'il y en a qui savent, donc si vous savez, répondez pas tout de suite, mais est-ce que vous savez combien il y a d'avortements en France tous les ans ? Si quelqu'un sait, vous pouvez le dire. Plus encore que 200 000. Entre 220 000 et 230 000 avortements par an pour 800 000 naissances. 20% de ces enfants verront jamais le jour. À titre de comparaison, et de comparaison seulement, je sais qu'elle est dure, que vous la trouverez peut-être trop dure. Mais à titre de comparaison, la Shoah en 1939-45 a tué de 5 millions à 6 millions de personnes. L'IVG en France existe depuis 1980, ça fait à peu près 40 ans. Avec une moyenne de 230 000 avortements par an, il faut à peu près une vingtaine d'années pour égaler avec l'avortement le nombre de morts de la Shoah. Même s'il y a eu moins d'avortements au début du moment où la loi a été votée en France, on a sans doute en France tué autant de bébés que Hitler a fait tuer de personnes en 1939 et 1945. Et sans doute encore plus. En France, les cas de trisomie 21 se soldent dans 95% des cas par un avortement. Adolf Hitler voulait se débarrasser des handicapés pour avoir une société de personnes parfaites. Nous faisons exactement la même chose en France aujourd'hui. Et chaque année, on vend pas moins de 1 million de pilules du lendemain et du surlendemain. Si chacune de ces pilules fait son effet et que chaque personne qui la prend était effectivement enceinte, il nous faut simplement 5 à 6 ans pour répéter ce que la Shoah a fait en 6 ans également. Nous devons prendre conscience de la violence de ces chiffres. Et je sais que ça vous paraît peut-être dur, et peut-être certains vous trouverez que j'ai tort de comparer ces deux événements. Mais si nous nous révoltons contre ce qui s'est passé en 39-45, nous devons nous révolter de la même manière pour ce qui se passe aujourd'hui, ici, dans notre pays. L'IVG, c'est ni plus ni moins qu'un assassinat de masse. Un assassinat qui s'en prend à des êtres dans l'incapacité de se défendre. Voilà la vérité de l'avortement qu'on présente comme un moyen de liberté, de contrôle de soi-même. Mais seul Christ peut nous donner une vraie liberté. Une liberté vis-à-vis du péché, mais aussi de la condamnation qui pèse sur nous à cause de ce péché. Christ nous fait ce cadeau d'être libre, de devenir obéissant volontairement à la vérité. Vous serez d'accord ou non avec ce que je vais dire, mais l'IVG, c'est pour Dieu un meurtre. Pour les raisons que j'ai présentées devant vous ce matin. Et peut-être que ça vous révolte. Soit ça vous révolte parce que vous êtes d'accord avec moi et que c'est insoutenable pour vous. Soit ça vous révolte parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous me trouvez peut-être trop dur. Ou peut-être vous trouvez Dieu trop dur. Ou peut-être vous vous dites que j'exagère, qu'il y a des cas où c'est explicable, pardonnable, normal. Nous avons besoin d'être honnêtes. Personne n'est neutre face à la question de l'avortement. Personne n'a aucun avis. La nature de l'avortement ne change jamais. Mais cependant, nous sommes appelés à poser un regard bienveillant et plein d'amour sur celles qui ont vécu l'avortement, qu'elles les choisissent ou qu'elles les subissent. L'avortement restera toujours ce qu'il est. Mais nous, nous sommes invités à poser un regard d'amour et de compassion sur celles qui ont eu recours à ce moyen. Nous ne devrions pas dire simplement « c'est un meurtre, voilà, tu es une meurtrière et tu payeras pour ça ». Parfois, c'est ce qu'on aimerait dire aux gens. Surtout ceux qui s'en fichent, ceux qui ne semblent pas avoir de remords. On ne peut pas voir la vérité quand Satan nous tient captifs du mensonge. Et nous devons nous en rappeler pour accompagner ces personnes avec amour, avec patience, avec bienveillance. Mon désir, ce n'est pas de condamner les personnes qui auraient eu recours à l'IVG. Mon désir, c'est pas non plus, en tant qu'homme, de vouloir imposer quoi que ce soit aux femmes qui m'entourent. Et ce message, c'est pas non plus un appel à se soulever contre nos politiques, à mettre la France à feu et à sang. Le message de l'Évangile, c'est un message de grâce, un message qui se reçoit pour quiconque reconnaît ses fautes et demande le pardon de Dieu. Et si vous avez eu recours à l'avortement ou que vous avez fait avorter quelqu'un, Dieu peut vous pardonner et vous rétablir aujourd'hui. En préparant ce message, j'ai lu un petit livre qui s'appelle « Quand la douleur persiste ». Et dans ce livre, l'auteur a listé 26 conséquences psychiques et physiques de l'avortement qui laisse et qui laissera toujours des séquelles. Peu importe combien fort on brandira la bannière de la liberté. La parole de Dieu nous promet que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute faute, de tout péché, de tout ce que nous aurions fait qui aurait été contraire à sa volonté. Si Dieu vous pardonne, Dieu ne revient jamais vous attaquer en remettant votre péché devant vous. C'est le diable qui fait ça. Lorsque Dieu nous pardonne, Dieu ne revient jamais remettre devant nous les péchés qu'il a pardonnés. Non pas parce que c'est comme s'il ignorait qu'ils aient eu lieu, mais parce que lorsque Dieu pardonne une fois pour toutes. Bien entendu, obtenir le pardon de Dieu, ça ne ramènera aucun enfant à la vie. Mais cela peut enlever le poids qui pèse sur la personne qui aurait eu recours à cette méthode. Et il peut enlever le poids non seulement des personnes qui l'ont vécu dans leur corps, mais aussi des personnes qui l'ont fait vivre à d'autres. Ce n'est pas parce que ce n'est pas nous qui avons avorté que nous sommes tout blancs. Si nous avons fait avorter quelqu'un, nous sommes tout autant responsables devant Dieu. Et nous avons aussi besoin de demander pardon et d'être pardonnés. Cette prédication, elle a pour but de vous aider à considérer l'avortement, pas du point de vue du monde, mais du point de vue de Dieu. Et oui, quand on prend les choses du point de vue de Dieu, on se heurte avec vigueur dans les convictions du monde. J'aurais préféré vous apporter un autre message, un message plus facile à préparer, un message plus doux, plus tendre. Et j'ai dit au Seigneur, tu sais, j'ai pas très envie d'aborder ce sujet. Et le Seigneur m'a dit, écoute, alors je paraphrase un peu, hein, mais la manière dont j'ai ressenti les choses, c'est que le Seigneur m'a dit, je t'ai donné une sensibilité pour que tu sois capable d'affronter ce genre de sujet. Du coup, tu vas prêcher ce message. Je n'étais pas trop d'accord encore. Et le Seigneur m'a dit, on peut décider de rester dans l'obscurité ou on peut décider d'aller dans la lumière. Je ne prétends pas que je suis une personne parfaite. Mais je sais que lorsque nous nous présentons devant Dieu sincèrement, et que nous demandons sa grâce et son pardon, Dieu l'accorde. Dieu restaure, Dieu guérit, Dieu délivre. En tant que chrétiens, nous devons considérer ce qui nous entoure du point de vue de Dieu, pour ensuite pouvoir nous positionner selon ce qui est juste. Encore une fois, nous ne lançons pas la pierre aux personnes qui auraient pu avoir recours à l'avortement. Ce que nous disons ce matin, c'est de dire Dieu est prêt à pardonner aux personnes qui ont pu avoir recours à cela. Dieu peut rétablir, Dieu peut guérir les personnes qui sont passées par là ou qui ont fait passer quelqu'un par là. Dieu peut guérir ceux qui ont le cœur brisé aujourd'hui. Et de tous les témoignages que j'ai lus et que j'ai entendus, que j'ai regardés, aucune femme n'a jamais dit « ça ne m'a rien fait ». Et nous voulons dénoncer ces mensonges que que le diable instigue par la société de dire « Vous pouvez faire cela et ça ne vous fera rien. Vous serez juste plus libre. Nous sommes juste un peu plus enchaînés quand nous sommes libres à la manière du diable. » Ainsi, aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à reconnaître nos péchés, à confesser nos fautes à Dieu, à implorer sa grâce, à recevoir son pardon. Encourageons celles et ceux autour de nous à se battre pour la vie. On ne veut pas simplement spécialement se battre contre l'avortement. On veut se battre pour préserver la vie, pour que ceux autour de nous aiment la vie que Dieu donne. Encourageons celles et ceux autour de nous à se battre pour la vie, pour la gloire de Dieu. Recevons la consolation de Dieu. Si aujourd'hui nous souffrons d'avoir eu recours ou d'avoir fait passer quelqu'un par l'avortement, eh bien vraiment recevons la consolation de Dieu si nous sommes prêts à nous repentir. Laissons-nous guérir et pardonner par Dieu, même si peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites ce que j'ai fait, c'est impardonnable parce que je suis un meurtrier ou une meurtrière. Dieu a pardonné à bien des meurtriers et bien des meurtrières dans toute l'histoire du salut. David a hurlé auprès de Dieu sa souffrance parce qu'il était meurtrier. Ce n'est pas lui qui a tué Uri, mais c'est lui qui l'a fait mettre en première ligne pour qu'il meure. Et la parole montre que c'est David qui est tenu responsable pour ça. Et après ça, David a crié à Dieu, il a demandé le pardon pour sa faute et il l'a obtenu. Si ce matin vous vous sentez concerné par ce que j'ai partagé de la part de Dieu, Dieu veut vous recevoir, vous consoler, vous équiper, vous restaurer, vous pardonner. Dieu ne veut pas que vous restiez avec votre culpabilité, avec les mensonges que l'ennemi a peut-être mis en vous, mais il veut vous délivrer. Et j'aimerais vous laisser trois sujets de prière. Le premier, j'aimerais que nous puissions prier pour celles et ceux qui ont vécu ou qui ont fait vivre un avortement. Il y en a peut-être plus que ce que nous croyons autour de nous. Je ne parle pas forcément spécialement que dans l'Église, mais aussi dans nos amis, nos collègues de travail, peut-être même notre famille. Qu'ils reconnaissent leur péché, qu'ils reconnaissent leur besoin de pardon et qu'ils puissent le recevoir de la part de Dieu. Que Dieu les restaure, les relève, les convainque de son amour. Et si ces personnes-là ne connaissent pas Dieu personnellement, que Dieu se révèle aussi personnellement à eux. Prions aussi pour le corps médical qui, jusqu'à aujourd'hui, a le droit de ne pas pratiquer l'avortement pour une situation de liberté de conscience. Aujourd'hui, la liberté de conscience en France permet au corps médical de ne pas pratiquer un avortement. Prions pour que cette liberté de conscience reste, qu'elle perdure, qu'elle soit toujours là. Et que si un jour elle disparaissait, que ceux qui sont contre cela, eh bien, restent fermes sur leur position, quelles qu'en soient les conséquences. Et je le dis en sachant très bien qu'un jour, une prédication comme celle de ce matin m'enverra peut-être en prison. Et prions pour que ces personnes rencontrent celui qui est l'auteur de la vie. Oui, c'est extraordinaire et c'est beau de voir des personnes se battre pour la vie. Mais quelle triste destinée si c'est pour finir loin de celui qui la donne. Et pour finir, prions pour nous autres chrétiens, pour que nous ayons une position ferme quant à la vie et à l'avortement, et que nous soutenions tous ceux qui décident de garder leur enfant, surtout si celui-ci est touché par une maladie ou par un handicap. Soutenons ceux qui veulent vivre comme le Seigneur le veut et le demande et l'attend. Soyons bons envers ceux que nous accompagnons et qui auront peut-être connu l'IVG une fois ou plusieurs fois. Encourageons-les, aimons-les, soutenons-les. Nous ne sommes pas là pour les condamner. C'est à Dieu la justice et c'est à Dieu la rétribution. Mais nous proclamons et propageons la bonne nouvelle de l'Évangile pour ces personnes. Nous allons prendre maintenant un temps pour prier ensemble. Je commencerai ce temps, vous pourrez prier à ma suite et ensuite Samuel clôturera ce temps de prière. Ce matin, je ne veux pas faire un appel de dire si jamais vous avez vécu un avortement ou fait avorter quelqu'un, levez-vous ou autre, parce que je ne souhaite pas du tout que ce soit puisse être mis en lumière ici comme ça maintenant, ça n'est pas le but. Mais je vais dire une prière. Et si jamais vous êtes concerné par ce que j'ai partagé ce matin, vous pouvez répéter cette prière. Vous pouvez venir me voir ensuite. Nous pouvons en parler, nous pouvons prier ensemble. Que nous puissions nous laisser rencontrer, trouver, toucher, transformer par Dieu encore ce matin. Nous allons prendre quelques instants de silence et ensuite je prierai. Et si vous le voulez, vous pourrez répéter dans votre cœur cette prière. Père éternel, ce matin, je veux reconnaître que la vie a de la valeur à tes yeux. Je veux reconnaître que c'est toi qui fixes le début de la vie. Et je veux reconnaître qu'elle t'appartient. Tu vois et tu sais tout de moi. Rien ne t'échappe me concernant. Je ne peux rien te cacher. Tu connais mon cœur et mes pensées. Ce matin, je veux me présenter simplement devant toi. Ce matin, je veux te demander pardon et reconnaître mon péché. Reconnaître mes fautes. Je suis passé par l'avortement ou j'ai fait passer quelqu'un par l'avortement. Tu le sais. Et ce matin, je veux te demander pardon pour ça. J'implore ton pardon. J'implore ta grâce. Je veux être guéri et restauré par toi. Je ne veux plus cacher cela, mais je veux le mettre en lumière devant toi. Visite-moi. Restaure-moi. Convainc-moi de ton amour pour moi et de ton pardon. Amen. Merci Père pour la vie précieuse que tu nous as donnée. Merci parce que tu as été avec nous bien avant que nous soyons dans le ventre de notre mère. Tu as toujours voulu de nous. Tu as fixé un début à notre vie. Elle t'appartient. Et je veux te remercier de ce que chacun de nos parents ici ont décidé, ont voulu de nous et que nous sommes ici parce que toi, tu l'as voulu aussi. Je te prie, Père éternel, pour que tu nous renouvelles, pour que tu nous fortifies, que tu nous bénisses et que tu nous permettes de maintenir bien haut, bien droit la bannière de la vérité sur ces questions, Seigneur. Encore une fois, nous ne voulons pas que naissent dans notre cœur des sentiments de jugement ou de condamnation. Ce que nous voulons, Père éternel, c'est partager simplement avec amour le plan de grâce parfait que tu as pour toutes tes créatures. Nous nous en remettons encore à toi ce matin, Père éternel, et nous te prions de guérir les cœurs brisés et de sécher les larmes de ceux qui pleurent. Que nous puissions pleurer avec ceux qui pleurent, les accompagner, les encourager, les bénir de ta part, et que nous puissions te voir encore faire de grandes choses pour ta gloire et ta gloire seule. Amen.